Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bienvenue dans ce 23e podcast. Ce soir, on va aborder la touche Ten Hag, la patte Ten Hag. On va parler un petit peu de lui. On va également sûrement finir avec Ronaldo. Avant d'entamer un petit peu les débats, je vous rappelle que ce n'est pas seulement un podcast. On a donc également un site, manchesterdevil.com. On a également un Twitter sur lequel on vous encourage à venir également nous rejoindre pour parler un petit peu de l'actualité et parfois même faire des spaces. Ce soir, je suis donc avec Adama. Bonjour Adama.
Salut les gars, Moza 95 sur forum.
Salut Mohamed.
Bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous après cette petite absence.
Super. Comment ça va Cédric?
Très bien, ravi d'être de retour avec vous.
C'est super. Moi, c'est Jiminy sur le forum. Bah écoutez les gars, je vous propose de démarrer. Donc on va se chauffer un petit peu. Donc ce soir, ce serait bien d'évoquer un petit peu le cas de Ten Hag. On a fait pas mal de matchs depuis le dernier podcast, il y en a eu quasiment une dizaine. Plutôt des bons résultats dans l'ensemble, pas mal de victoires, quelques matchs nuls, une sale défaite. On va peut-être pas trop en parler ce soir. On va essayer de rester sur une note un petit peu plus positive. Qui veut prendre la main?
Ah bah je vais commencer. On va y aller
Allez.
tranquillement, tranquillement. On va essayer de faire ça tous ensemble, ce sera plus simple. Du coup, Ten Hag, la dernière fois qu'on a disputé, on était encore qu'au début de saison. On avait subi les deux défaites face à Brighton avec un petit renouveau, enfin un petit renouveau qui se mettait en place avec les quatre victoires d'affilée, je crois, ou les cinq. Je sais plus si on avait fait le podcast avant de la cinquième. Et de mémoire, Antoine était un petit peu, pas dire virulent, mais il commençait à être attentiste vis-à-vis de la patte justement de Ten Hag. Il voulait que justement dans les mois à venir et les prochains matchs qui suivaient, qu'on commence à voir sa patte et qu'on commence à voir un peu des améliorations au niveau du jeu, parce que les résultats commençaient à être là, mais on ne voyait pas forcément sa patte. Il n'avait pas tort dans un sens. Donc maintenant, on peut faire un petit débrief de ce qui s'est passé depuis ce temps-là. On va effectivement omettre la défaite face à City pour le bien de tout le monde, hein, je pense. Et du coup, pour résumer, on commence enfin à avoir des choses intéressantes sur le terrain. On voyait déjà une solidarité qui commençait à émerger dans l'effectif. Et là, au niveau des résultats, on commence à voir que il y a vraiment une patte qui commence à s'imprégner, le discours passe avec les joueurs commencent à retranscrire ça sur le terrain, avec en ligne de mire, enfin le point culminant, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est la victoire face à Tottenham.
Ah, je suis pas tout à fait si d'accord, mais oui, on va en parler du coup.
On a joué un football, pas dire champagne, mais presque. C'était du gros foot, du très bon football. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un match aussi abouti. Une période, surtout une première mi-temps, parce que sur la deuxième mi-temps où on marque assez tôt, donc après on, je vais pas dire qu'on déroule, mais on est un peu plus en gestion, un peu plus en maîtrise. Mais sur la première mi-temps, si on peut rapidement parler de cette mi-temps-là, je trouve qu'on a fait une très très grosse mi-temps avec un bloc assez haut, des schémas de relance, des combinaisons, des dédoublements. C'est pas encore parfait, c'est sûr, mais par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison, on sent vraiment là une progression. Si quelqu'un a ajouté, j'ai pas forcément évoqué les autres résultats, mais parler uniquement du cas Tottenham. Vas-y, je
Ouais,
t'en prie, Adam.
je vais prendre la main. Donc, moi, globalement, je suis d'accord avec toi. Moi, je vais le faire entre guillemets en deux temps. Donc, le premier temps, c'est jusqu'à Tottenham. Donc, avant le match de Tottenham, je commençais un peu à m'inquiéter sur la patte Ten Hag. C'est vrai qu'on avait eu cette petite discussion
Antoine.
avec Antoine. Ça va me revenir. Avec Antoine, où on n'était pas forcément d'accord avec lui, et je trouvais qu'il était quand même un peu dur, parce qu'on avait quelques résultats, mais on n'avait pas de contenu dans le jeu. Il y a eu un accident qui s'est passé contre une équipe. Et là, depuis Tottenham, pour moi, c'est la date de naissance du Manchester de Ten Hag. Pourquoi? Parce que, certes, c'est Tottenham. On savait que c'était une équipe qui allait défendre, mais nous, on a montré une volonté. Donc, avec le ballon, on a été protagoniste avec le ballon, et sans le ballon, on a montré des choses. Il y a encore des choses à améliorer, mais c'était encourageant. Moi, c'est tout ce que je demandais, c'était que les joueurs courent, les joueurs osent, montrent des choses, ce qu'ils font à l'entraînement qui le retranscrivent en match. Et là, on peut dire que pour le match de Tottenham, ça a été. Et du coup, pour le match de Chelsea, c'est une confirmation, ça va dans le bon sens. Habituellement, ce match-là, on l'aurait perdu. Même si on ne méritait pas de le perdre, on l'aurait perdu. Là, Ten Hag, on peut le voir même, je crois que c'était vers la 90e, où Luke Shaw prend, prend le ballon et prend tout son temps pour aller faire la touche, et lui dit oui, d'aller pour marquer. Donc ça, c'est vraiment un signe qui montre que voilà, il y a des choses qui se mettent en place, et là, c'est encourageant. Donc là, moi, je suis content de ces deux derniers matchs, et j'espère que ça va continuer.
Alors, curieusement, moi, j'étais plus emballé par le match de Chelsea que le match de Tottenham. Parce que ce qui m'a gêné à Tottenham, alors, on a pris du plaisir en regardant le match, j'ai pris du plaisir en regardant le match. Ça, déjà, c'est sûr que si on le ramène ces dernières années, bon, bah, forcément, c'est bon. Je suis très content qu'on ait gagné, il n'y a aucun doute là-dessus. Là, on va parler un peu plus de détails parce que c'est juste si on pourrait voir ça de loin et se dire ok, on a fait une super victoire, il y a eu un peu de jeu et tout. Mais j'ai vu personne évoquer le niveau de Tottenham. Tottenham, son niveau, les gars, c'est pas le Tottenham de l'année dernière ou d'il y a deux ans. Et on en était vraiment loin. C'est-à-dire quand je dis que c'est pas le niveau, c'est pas l'écart qu'on a en ce moment avec le Liverpool de l'année dernière, cette année qui déjà est conséquent, je trouve. Mais on était encore sur un autre niveau. Nos joueurs ont fait une bonne prestation. On ne peut pas leur en enlever. Ça, ils ont fait une bonne prestation. Mais c'est une prestation qui a énormément été accentuée, je trouve, par la mauvaise prestation de Tottenham. Je me mets supporter de Tottenham 2 minutes. En fait, tu es au même niveau qu'un supporter de Manchester à certaines périodes de l'année, quoi. Je veux dire, c'est très compliqué. T'as vraiment envie de tirer sur tes joueurs. J'ai beaucoup plus été enthousiasmé par le match derrière de Chelsea. Comptablement, bon, bah non, du coup, forcément. Mais finalement, je me dis, c'est qu'un fait de jeu, en fait, le résultat comptable. Parce que déjà, bon, on prend un but sur un pénalty largement évitable, qui est une faute individuelle d'un joueur. Donc, tu peux, à la limite, le sortir de la prestation globale, puisqu'on est vraiment là sur quelque chose qui dépasse le football et qui s'approchait plus sur du judo, je pense, pour les spécialistes en arts martiaux. Donc, j'ai beaucoup plus été emballé par le match face à Chelsea, parce que Chelsea est dans une meilleure forme que Tottenham. C'est pas la meilleure forme du championnat, mais c'est quand même déjà une forme supérieure. Ils ont eu un petit boost psychologique avec l'arrivée de leur entraîneur, qui a quand même leur a fait du bien, on va pas se mentir, d'autant plus que depuis, ils n'ont perdu aucun match. Et du coup, pour moi, c'est un bien meilleur révélateur, notamment sur le côté Grinta, que l'équipe est en train de retrouver. Je peux pas dire que c'est acquis, parce que quand tu as fait presque 10 ans où tu peine match après match, je peux pas dire qu'en deux matchs c'est acquis, mais on est sur la bonne voie, c'est cool. On voit enfin de la Grinta. Je reste persuadé pour moi que le bon recrutement cette année c'est Eriksen, mais je dois avouer que le match sans lui à Tottenham se passe très bien, et je dois avouer que l'arrivée de Martinez qui a forcément éclaboussé quand il est arrivé les premiers matchs, et je trouvais après qu'il était un peu rentré dans le rang, là la Grinta qui sort sur les deux derniers matchs, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur. D'ailleurs, il a dit lui-même, il y a la moitié du stade qui arrête pas de chanter Argentina, c'est pas un hasard, je veux dire, tout le monde s'en est aperçu. Donc ça, c'est vraiment pour les points qui font quand même plaisir. Et le match contre Chelsea, vraiment, pour moi, j'ai fait plus de plaisir à regarder le match contre Chelsea, malgré le score, que le match contre Tottenham, qui était sympa au demeurant. C'était, je veux dire, pour un supporter lambda, alors quand je dis lambda, c'est pas par rapport à nous, mais j'imagine le mec qui a eu ma télé qui suit pas forcément les deux équipes, il a pris du plaisir en regardant ce match. C'est évident. Mais par rapport à nos attentes, je trouve qu'on est plus proche de la vérité face à Chelsea que face à Tottenham, personnellement. Après, on parle... ouais, vas-y.
Si je peux juste rebondir sur... on peut voir la chose de deux façons. Est-ce que c'est pas notre match qui fait que Tottenham déjoue? Parce que y a une stat qui trompe pas. Jamais Tottenham n'a subi autant de tirs en première période. Ajoute à ça le fait qu'il a renforcé. D'habitude, il joue en 3-4-3 avec Richarlison sur les côtés avec Son et Kane devant. Là, il a joué en 3-5-2. Donc, il a en plus de ça renforcé son milieu de terrain. Et malgré ça, on les a surdominés. Donc je suis d'accord avec toi dans le sens où le match de Chelsea est très bon et on voit un peu plus de maîtrise et ce à quoi, parce qu'on avait une confrontation plus intéressante, un bloc pas forcément bas, donc on voit dans les grands matchs ce que ça peut donner, et ça trompe pas d'ailleurs, parce que sur les grands matchs, mis à part le match contre City, on a 0 défaite.
Par contre,
combien de victoires
un match nul. Regardez aussi le match que fait Tottenham après nous et son contenu, c'est un enfer. Hein. Je sais que nous, on ne le voit pas comme ça parce qu'on ne suit pas Tottenham, mais les gars, là, les deux derniers matchs de Tottenham, je vous jure, vous ne voudriez pas supporter les Spurs. Hein, vous n'auriez pas envie. Hein. Ce n'est pas possible.
Mais après, ils sont quand même devant nous au classement. Ça reste une grosse équipe du championnat qui fait un bon début de saison.
Et c'est parce qu'ils ont fait un bon début de saison. Ce n'est pas la forme actuelle. Et nous, c'est actuellement qu'on parle. C'est pour ça qu'après, voilà.
C'est la même problématique que le match contre Liverpool. C'est pas parce que Liverpool est faible que nous on n'a pas été on a été bons sur ce match-là. On a montré des choses. Et contre Tottenham, c'est pareil. Je sais que Tottenham, même s'ils étaient à leur meilleur niveau, je pense qu'on les aurait dominés quand même. Parce que leur style de jeu fait en sorte que ils vont faire un bloc bas et c'est nous qui allons faire le jeu. Mais là, nous aussi, on les a mis en difficulté. Donc, ok, oui. Dans les gros matchs, ils y sont pas. Ils ont gagné tous leurs petits matchs. Ils ont perdu le derby. Ok, sur ça, on est d'accord. Mais je pense qu'on peut mettre un peu de crédit sur la prestation des joueurs. On n'arrête pas de leur taper dessus. Moi, j'ai plutôt envie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide sur ce match-là. Mais je suis d'accord aussi avec toi que sur le match de Chelsea, j'ai pris plus de plaisir à regarder Chelsea. C'était beaucoup plus intéressant de voir ce match-là.
Qu'est-ce que tu en penses, Cédric?
Je veux dire, j'ai été un peu inquiet. Moi, c'était après le match contre City, parce que c'est encore un match où, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, le match était fini, sans même qu'on soit rentré dedans. Et ça rappelait beaucoup les déculottés de l'année dernière. Et puis, après, j'ai été assez surpris du contenu des deux derniers matchs, là, entre Tottenham et Chelsea, où on avait vraiment fait deux matchs pleins. Avec un jeu vers l'avant assez efficace, un gros pressing, puis une belle intensité tout le match. Enfin, c'est le genre de truc qu'on arrivait à faire pendant 10 ou 15 minutes les saisons précédentes. Quoi. Puis là, ça a l'air d'être bien parti. Et puis aussi, enfin, je crois qu'on a eu un petit peu de chance sur les buts, mais je sentais que c'est vraiment le résultat d'une méthode. Enfin, un peu comme en tennis, où, vous savez, il y a la différence entre les fautes directes et puis les fautes provoquées. Là, bah, je trouvais que les buts qu'on a marqués, notamment contre Tottenham, c'était vraiment de la chance qu'on est allé chercher. Quoi.
Oui, ça se provoque la chance, je suis d'accord.
Pour le coup, je suis d'accord. Il a bien résumé.
Après, c'est vrai que là, c'est bien aussi, c'est vrai que tu parles de City, parce qu'on s'est un peu hypé là, en parlant des deux derniers matchs. Mais on parle de la patte Ten Hag en général, et avant ces matchs-là, il y a quand même eu aussi d'autres contre-performances en Europe, ça s'est pas toujours bien passé, et même des matchs nuls qu'on a pu faire face à Newcastle ou quoi, où on ne sort pas non plus de manière glorieuse du match, alors c'est pas la bouillie de football auquel on a eu droit l'année dernière, on admet tous qu'il y a une évolution, mais faut pas non plus perdre de vue que sur nos 7 ou 8 derniers matchs, on n'a pas vu ce qu'on a vu sur les deux derniers. Enfin, c'est pas une constante qu'on a depuis 10 matchs. Là, c'est une constante qu'on a sur les deux matchs. On est content parce que c'est deux grosses équipes en plus, donc ça tombe bien. Mais, c'est un peu de temps.
Quoi. C'est pas deux bons matchs en 6 mois, c'est deux bons matchs en une semaine. C'est quelque chose de nouveau, ça.
Et puis, comme l'a dit Adama, c'est la date d'anniversaire, on va dire, c'est le commencement. C'est vrai que sur les matchs avant celui de Tottenham, c'était un peu, on va parler du match de Nicosie où on marque à la 94e minute, mais on sentait qu'au niveau de la solidarité, qu'il y a vraiment un groupe discret, parce que ce match-là, l'année dernière, je pense pas qu'on marque le but à la fin. Pareil sur le match de Chelsea, je suis pas sûr que les gars ils vont chercher la l'égalisation en dernière seconde comme ça a été le cas. Il y a vraiment un sentiment de solidarité qui se dégage et de rien lâcher en fait. Ils ont la dalle, ils ont faim. Et ça c'est plaisant. Et ça on le voyait déjà sur les matchs précédents. Même si c'était pas forcément au niveau du jeu, c'était pas encore trop ça. Après, je vais quand même mettre un petit bémol et nuancer la performance face à City. On parle pas assez du fait qu'avec le décès de la reine d'Angleterre, on a eu un mois en première ligue sans avoir joué de match, où les matchs ont été reportés. Ajoutons à ça aussi le fait que les gars étaient en sélection, donc pendant un mois, les gars ont pas joué. Enfin, on n'a pas eu de match en première ligue, même si on a eu deux matchs en Europa. Mais je pense que ça a un petit peu joué. Ça n'explique pas la contre-performance et le manque d'envie totale qu'il y a eu de la part des joueurs. Mais ça peut être une petite piste quand même. Je trouve que c'est à prendre en compte en tout cas. En tout cas, ça peut
influer. Il y a juste une différence de niveau aujourd'hui où on ne peut pas les atteindre. Surtout qu'en plus, ils sont renforcés avec un monstre devant. Pas donc sûr. Là, pour moi, on peut pas encore les toucher. Donc, moi, ce match-là, il me fait moins mal que les autres matchs d'avant. Parce que je me dis, bon, je ne le vois pas comme un accident. Ce qui s'est passé, c'est normal. Non,
je l'avais déjà dit, c'est une normalité. 4 contre 6, c'est une normalité. Ce qui était anormal, ça a été la première mi-temps.
C'est la façon, en fait. Mais ok, que c'est la normalité. Mais... Ça aurait été un accident de gagner. Enfin, oui, ça aurait été un accident.
Oui, complètement.
Mais, surtout sur ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est qu'on voyait de la solidarité, de l'envie, tout ça, même si dans le jeu, c'était pas flamboyant. Sur City, on a vu ni l'un ni l'autre.
Alors, ça aussi, ça peut s'expliquer, à mon sens, parce que depuis tout à l'heure, on parle du positif de Ten Hag, parce qu'on est très content des deux derniers matchs, je le redis, vraiment, c'est un plaisir. Enfin, surtout quand tu sors de la période de laquelle on sort, on va pas se mentir. Mais dans la patte Ten Hag actuellement, il n'y a pas que du positif non plus. Je trouve, à mon sens, il y a des choses que je n'aime pas. Je vais commencer à en parler un petit peu. Par exemple, je trouve qu'on a un gros déficit où on n'adapte pas notre équipe. C'est-à-dire qu'en fait, on prend tous les matchs comme si on était dominant. C'est-à-dire que j'ai l'impression de revoir le Manchester de 2007-2008 quand Ferguson n'avait pas besoin d'adapter sa composition. D'accord, sauf en Europe où il faisait un différent, mais en première ligue, il adaptait pas. On changeait pas le 4-4-2 à plat, deux attaquants. Et on partait du principe que n'importe qui en face, on allait leur rouler dessus. Donc, en fait, on partait du principe que c'est l'adversaire qui allait s'adapter à nous, systématiquement. Et là, c'est ce qu'est en train de faire actuellement Ten Hag. C'est-à-dire que, en fait, il fait des petits changements poste pour poste, mais la stratégie reste la même. Personnellement, d'un point de vue personnel, après j'ai pas mis diplôme d'entraîneur, mais je trouve pas ça pertinent d'aller face à City de la même manière que tu vas face à Tottenham, ou que tu vas face à Brighton, ou que tu vas aller face à Newcastle. Je trouve qu'il y a des adaptations à faire. Et c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Ces adaptations-là. Et pire...
Vas-y, excuse-moi, termine.
Je termine ma phrase comme je te laisse répondre. Et pire, c'est que quand on a un joueur qui manque, il fait un remplacement poste pour poste, et même là où tu n'as pas d'adaptation. C'est-à-dire que du coup... tu te retrouves, t'as pas d'attaquant qui convient, c'est pas grave, on va prendre un milieu, on va le mettre en haut. Mais on va quand même garder ce système. Moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que je trouve que le taf d'un entraîneur, c'est de tirer le meilleur parti de son groupe et c'est pas de demander à ton groupe de tirer le mieux du système qu'il veut mettre en place. Donc, quelque part, ça, c'est quelque chose qui me gêne dans sa gestion. Et après, on pourra aussi reparler, je vais te laisser prendre la parole, et on pourra aussi reparler après aussi de la gestion du banc, et qui est quelque chose aussi qui est un peu une chose délicate en ce moment.
Juste pour répondre là-dessus, excuse-moi Adama, je prends la parole 2 secondes, pour rebondir là-dessus, c'est peut-être, sachant qu'il est au début de son règne, hein, on espère que ça sera un règne évidemment, mais c'est surtout, je pense, pour être cohérent entre ce qui se passe à l'entraînement la semaine et qui continue à produire ça le week-end. Après, je suis d'accord avec toi, hein, c'est vrai qu'il faut s'adapter, mais peut-être que c'est pour qui... En termes de lui, il est très, très cérébral et il le dit, le cerveau est plus important que les jambes. Donc, s'ils comprennent dans le cerveau, dans les jambes, ça va suivre. Donc, peut-être qu'il leur dit de continuer comme ça, de faire la semaine et le week-end comme ça, plutôt que de leur dire la semaine, on s'entraîne de telle façon. Et le dimanche, finalement, on s'adapte un peu, les gars, mettez un peu le pied sur la balle ou pressez pas trop, tu vois. Je pense. C'est peut-être
une explication. Je suis d'accord avec mon maître, c'est ce que j'allais dire. Et si je peux rajouter au pied un élément, c'est qu'en fait, il vient d'arriver. Donc, Il a en fait plusieurs problématiques. Il a une problématique où il doit trouver, entre guillemets, son 11. Et pour trouver son 11, il est obligé de les faire jouer. Il est obligé de trouver des automatismes. Donc, il est obligé de mettre les mêmes joueurs. Là où c'est contre-intuitif, c'est qu'il ne s'adapte pas aux adversaires. Mais là où c'est pertinent, c'est qu'il veut imprimer justement son style de jeu. Et il veut imposer son style de jeu à l'adversaire. Donc là, ça devient pertinent. Comme City veut imposer son style de jeu aux adversaires, lui, Ten Hag aussi, veut imposer son style de jeu aux adversaires. Et pour faire ça, il est obligé de mettre les mêmes joueurs pour qu'ils aient des automatismes, pour que les résultats suivent. Donc, d'un côté, c'est logique, mais d'un côté aussi, si les résultats ne suivent pas, ça peut être compliqué. Donc, je comprends aussi ta position, Jérémy.
Je vais te répondre à ça et je vais demander à Cédric après s'il est ce qu'il va penser de ce que je vais dire. Mais moi, je partage pas cet avis parce que j'ai toujours ce sentiment pour l'instant que Ten Hag fige une équipe du moment qu'elle a gagné. Il a commencé à faire du turnover sur ses premiers matchs. Quand on a eu la première victoire, on l'a vu. Il a mis un verrou. Il a dit c'est bon, on bouge plus. Et la compo n'a plus bougé. D'ailleurs, c'est ce qui pose un problème. Ce qui me pose un second problème dans ce que tu dis, c'est que tu me dis il essaye tous ses joueurs. C'est faux parce que du coup, dès le début, il y a des joueurs qu'il n'a pas essayé parce qu'il a gagné. Il y a des joueurs qui ont été écartés dès le début. Van de Beek, au début, il n'était pas blessé, il n'a pas essayé. Wan-Bissaka n'était pas blessé, il n'a pas essayé. Il a des joueurs qu'il a mis de côté de suite. Et pareil, puisqu'on parle de cette gestion, et du coup, je vais voir ce qu'en dit Cédric. Malassia a fait un mauvais match. Il a fait un début de saison super. Il a hypé tout le monde. Il a fait un mauvais match. Il coïncide le retour de Luke Shaw. Il est sur le banc. Et il rentre.
Je dirais qu'il en a fait deux quand même, mauvais match.
Là, c'est différent. Là, on est plus sur la gestion. Là, on est plus sur la gestion et sur.
Ça fait partie du turnover. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric ?
Bah, je suis d'accord avec ce que tu dis. Enfin, c'est vrai que bah, c'est comme si on était sur une ligne. Au bout d'un mauvais match, on ne réapparaît plus. Mais je trouve que c'est factuel ce que tu dis. Hein. On ne peut pas ne pas être d'accord. C'est ce qu'on observe. Mais la période, elle est assez courte. Et moi, je pense qu'il y a une grosse pression. Il essaie de se rassurer, de construire quelque chose. Enfin, il y a 3 mois, c'était une équipe qui n'arrivait pas à aligner 3 passes. Donc, je pense qu'il essaye de construire des automatismes, tout simplement.
Alors, je trouve 2 choses. Déjà, la période est courte, peut-être, mais on n'a quasiment jamais joué autant de matchs que ce qu'on est en train de jouer là sur une courte période. Donc, en fait, les matchs, on les a. Et d'ailleurs, on avait un peu parlé entre nous. On se demandait si c'est une période où le coach allait faire beaucoup tourner. D'accord ? On s'aperçoit que non. On est au milieu de cette période, on est même aux 2/3, presque aux 2/3, moitié 2/3, et on s'aperçoit qu'on tourne très peu. Les peu de turnovers qu'il y a eu ont été dus principalement à des blessures ou des indisponibilités. Et en fait, du coup, je suis pas tout à fait en accord avec ça. Je pense qu'il est encore bloqué sur son équipe qui gagne. Et alors, même si on voit une touche Tanag, il y a aussi un paramètre qu'on n'a pas tenu en compte par rapport à cette montée en puissance sur les 2 derniers matchs, et qu'elle coïncide aussi parfaitement avec la montée en puissance de Casemiro. Et du coup, quand j'entends le « oui, c'est l'année dernière », c'est ce qui a été dit tout à l'heure par toi, Cédric. Quand tu dis « oui, l'année dernière, ces matchs-là, on les gagnait pas », ou Mohamed qui disait que ces matchs-là, on les gagnait pas l'année dernière. L'année dernière, nous avions un effectif moins bon que ce qu'on a cette année. Ça rentre aussi en ligne de compte. Et l'année dernière, un Casemiro en forme, on n'en avait pas au milieu. Hein. On n'avait pas un Casemiro. J'entends qu'on a donné du crédit à Mato. Oui, on ne sait pas encore ça.
Casemiro,
voilà, on ne sait pas si c'est lui ou pas, mais dans tous les cas, ça arrive chez lui. C'est ça. Et donc, du coup, quand j'entends que l'année dernière, on s'en est pas, oui, il y a la patte Ten Hag, mais il y a aussi le fait que l'effectif, là, il a qualitativement augmenté. Donc, il y a aussi une attente par rapport à ça. Moi, l'année dernière, vous m'avez entendu le dire 20 fois, pour moi, l'année dernière, on avait un effectif pour faire au mieux de l'Europa League. On avait un effectif de entre 4 et 7e. C'est-à-dire, si ton effectif tourne bien avec ton effectif, t'es 4e, tant mieux, t'as accroché l'Europe, sinon t'es sur la petite Europe, et c'est normal. Et c'est normal, au vu de ton effectif, on ne va pas te cracher dessus, c'est normal, c'est la normalité. Là, je trouve qu'on a un cran dessus. Je veux dire, si on devait nous placer là sur l'effectif, pour moi, on est entre le 2e et le 4e, et le, non, j'exagère, entre le 2 et le 6e. C'est-à-dire que là, déjà, pour moi, on a un effectif qu'on n'a plus le droit de sortir de l'Europe. L'année dernière, avec notre effectif, je considérais qu'on pouvait être hors Europe. Là, actuellement, c'est pas le cas.
Il n'y a que moi qui étais optimiste sur mon effectif de l'année dernière où je disais qu'il fallait qu'on joue le titre.
Tu t'es fait avoir par le recrutement.
Ouais.
Non. Non, après, on était tous un peu hype l'année dernière, on ne va pas se mentir. Soyons honnêtes un petit peu.
Qu'est-ce qu'elle nous a fait mal, cette seconde place ? Cette seconde place, il y a 2 ans, qu'est-ce qu'elle nous a fait mal ? Parce qu'en fait, elle nous a fait plus de mal que de bien.
Mais moi, c'était tout simple. Le raisonnement, c'était que, ben, on a renforcé notre effectif, donc logiquement, on devait faire mieux. Faire mieux, c'est être champion. Je ne sais pas qu'on, oui, on allait être champion, mais de se battre pour le titre, c'était comme ça que ma réflexion se construisait.
Le problème, c'est que tous les clubs s'étaient renforcés, et d'ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure quand Cédric a parlé de City. City s'est énormément renforcé. L'arrivée de Haaland, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Hein. Je veux dire, c'est incroyable et c'est rageant parce que, un, déjà, c'est Manchester City, donc bon, après, on place ça où on veut niveau rivalité. On sait que pour certains, c'est pas si important que ça. Mais 2, ce qui est incroyable, c'est de savoir qu'il a joué sous OGS. Et OGS nous a appelé en prime pour nous dire, les gars, il faut le prendre. Et qu'on n'a pas été capable d'aller le chercher. Et ça, c'est grave. C'est assez grave. C'est grave d'avoir un joueur de ce talent.
C'est l'histoire de la clause, là. Où on voulait pas payer, on voulait pas mettre en place la clause de 75 millions que Dortmund a mis en place. Et on voulait pas donner une commission plus importante que ça à Mino Raiola. C'était dans les tuyaux, mais ça s'est pas fait pour ces raisons.
Ça se tient.
C'est ce qui est sorti en moment, en tout cas à l'instant où, avant de signer à Dortmund, il était encore à Salzbourg, où en phase de poule, il faisait déjà très très mal. Et ça en parlait au mois de janvier. Justement, ouais, mais... avant d'arriver de Bruno, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, mais est-ce qu'il aurait performé de la même façon chez nous? Pas sûr, parce qu'à Dortmund, il y a un collectif qui tourne, il y a déjà des choses qui sont mises en place. Chez nous, c'était une bouillie de football, même s'il a beau être un très bon attaquant, c'est pas parce qu'on va lui donner le ballon qu'il va automatiquement marquer.
Je suis pas d'accord. À quel moment, replacer dans le contexte de l'époque, c'est en quelle année il devait arriver, s'il est arrivé? C'est quand on a Zlatan?
Non, c'est je me rappelle, Bruno signe juste à ce moment-là.
Ouais. Bruno signe à ce moment-là. Mais les gars,
juste avant le Covid.
Non, là, à ce moment-là, on ne pas l'accueillir.
Non, mais des rendez-vous ratés, il y en a eu deux, les gars. Il y a eu celui-là et il y a celui quand OGS, là, déjà en tant qu'entraîneur, pas chez nous, là-bas, dans son pays, en Norvège, et où il te dit, les gars, j'ai un joueur, c'est un monstre.
J'ai un petit crack.
Parce que je ne vous souvenais pas trop, mais OGS, quand il était là-bas à Molde, il y avait un énorme échange sur les jeunes joueurs. Hein. On a envoyé beaucoup de jeunes joueurs là-bas et lui faisait remonter quand il y avait des très bons joueurs. À l'époque, on n'a pas été foutu de se placer. Le mec à qui tu as donné du crédit 2 ans après pour aller le chercher comme coach principal, tu ne l'écoutes pas quand il te fait une recommandation 2 ans avant. Après, ça montre à quel point on ne voit pas loin en fait, dans notre manière de le gérer. En fait.
Ouais, mais comme disait Antoine, il le répète assez souvent, l'histoire des scouts qui étaient engagés par le club et employés par le club et qui n'étaient pas écoutés. Ils avaient des rapports assez complets, assez détaillés. C'est comme la fameuse anecdote où le club a envoyé 2 scouts au même match. Ils n'étaient même pas au courant.
Je sais. Je vais la placer là parce qu'on l'a envoyé à Antoine pour rigoler, hein, mais vous avez vu, hein, on continue à payer des coachs chez nous qui ne sont plus coachs. Donc tout va bien. Hein. Félan, petit coucou à toi si tu nous écoutes.
Mike, Mike. Je peux rebondir sur ce qu'a dit rapidement Cédric tout à l'heure quand tu as dit qu'il y a des joueurs qui font un mauvais match et après on les voit plus. Bah, j'ai envie de dire tant mieux. C'est vrai que c'est sévère, mais tant mieux. Même Duke Shaw, je ne sais pas si vous avez vu les interviews passées. Il lâche une petite crotte de nez à ses précédents coachs où il dit bah avant où certains faisaient pas des bons matchs. En plus j'espère qu'il se met dans le lot en tout cas. Il disait clairement certains faisaient pas de bons matchs et pourtant on les revoyait jouer on les voyait titulaires le week-end. Donc oui, Malacia, c'est vrai qu'il a fait un très bon début de saison. Luke Shaw, je sais pas s'il était blessé, il était à court de forme. Après il est revenu en forme, mais il a pas joué parce que Malacia était bon. Ça rejoint ce qu'on disait où quand Ten Hag ne change pas une équipe qui gagne, hein, on va dire que c'est son adage. Mais tant mieux d'un côté, ça augmente la concurrence. Après, faut pas que ce soit malsain. Parce que on peut citer un exemple, par exemple, là, rapidement. J'ai Dom Sancho qui est le moins bon de tous nos offensifs, qui continue d'enchaîner les titularisations. Mais en tout cas, je trouve que dans 80% des cas, c'est une bonne chose.
On n'a pas de rotation à ce poste-là, donc ça veut dire que même seul. Et je suis d'accord avec toi. Donc, sur Luke Shaw, qui prend la place de Malassa après un ou deux bons matchs, mauvais matchs, c'est normal. Mais pour Sancho, on n'a pas forcément beaucoup de possibilités. C'est soit Elanga, d'autres vont me dire oui, on peut mettre Garnacho, je ne suis pas sûr. Donc, on n'a pas tellement de possibilités de pouvoir changer à ce poste-là. Et je trouve qu'il gère plutôt bien le poste d'arrière gauche, puisque Malassa joue les matchs d'Europa League. Et Luke Shaw revient en championnat. Donc, c'est plutôt.
Je vous dirai ce que vous en pensez, mais je n'entends pas la solution. On n'a pas de place, on n'a personne à part Sancho. Hein. Je suis désolé, mais quand ça a commencé à aller mieux, quand on s'est enfin sorti de ce mauvais début de saison, c'est les deux matchs où on aligne Elanga sur son côté. Hein. Elanga était aligné d'un côté à une fois à droite. Non, une fois à gauche et après ils ont passé à droite parce qu'il y a eu un blessé, je crois. Ou l'inverse, je ne sais plus dans quel sens il a pivoté. C'est quand on gagne face à Arsenal, non? On n'a pas de mémoire. Je fais une erreur si je annonce Arsenal?
Non, Anthony, dès qu'il est arrivé, il était titulaire. Ouais, après, là, on l'a plus vu, ouais. Justement.
Mais que... Oui, non, va. Attends,
c'est contre Liverpool. C'était Langer.
Mais oui, il a tenu Alexander-Arnold de son côté tout seul. C'est une blague, ouais,
après les deux défaites, Brighton-Brentford, Elanga était titulaire, c'est vrai.
C'est lui qui était titulaire, et pourtant, c'est là où on a commencé à relever le nez. Donc, pourquoi est-ce que ce joueur, qui nous a en plus dépanné déjà avant, alors oui, il a peut-être un plafond où il arrivera bas, mais là, on parle sur du court terme, on n'est pas en train de dire que Elanga deviendra notre futur ailier sur les 20 années, mais cette année, oui. Quand tu fais avec l'effectif que tu as, et que tu as Sancho qui actuellement est pas bon, il peut faire un tour sur le banc, parce que c'est là où je voulais en venir. Quand tu dis qu'il y a des gens qui sont mauvais, oui, ils doivent être sur le banc, c'est bien qu'ils le fassent. C'est bien qu'ils le fassent, mais il le fait pas tout le monde. Il choisit ses joueurs. Je veux dire, par exemple, CR7, il a pris plus que d'autres joueurs.
C'est vrai. Après, peut-être que bon, on va en parler en deuxième partie, mais en tout cas, CR7.
Ah non, non. On va en parler maintenant. C'était la transition, tu l'as pas vu arriver.
On fait pas de bilan sur la Pasternak.
Mais si. Vas-y.
Bah on va conclure, on va dire, cette partie sur Tenag en disant qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que ça a mis du temps à démarrer. Ça commence à démarrer, ça veut pas dire que c'est totalement parfait pour l'instant. On est au début d'un grand projet, d'un grand règne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourvu que ça dure, on reprend du plaisir à regarder les matchs. Pour ma part, en tout cas, j'ai hâte à chaque fois que les matchs arrivent. Il y a le petit stress d'avant-match où on a hâte de voir la compo, qu'est-ce qui va se passer. Donc espérons que ça dure en tout cas. Et voilà, tout simplement. On peut passer au cas Ronaldo, je pense.
Allez.
Il veut se lancer, j'ai envie d'entendre Cédric. La sagesse, tiens, sur ce cas précis.
Oh, c'est un cas difficile, ça. Moi, c'est vrai que j'adore Ronaldo. C'est un des joueurs les plus impressionnants de ces 15 ou 20 dernières années. Puis en même temps, bah, j'adore Manchester aussi. Et puis là, bah, ça va pas, quoi. Je trouve qu'il bah, se comporte un petit peu comme un enfant, mais je pense qu'on ne sait pas tout non plus, parce que il a toujours été super pro depuis 20 ans, et peut-être, peut-être qu'il sert d'exemple à Ten Hag pour... Enfin, c'est Ten Hag qui fait un exemple avec Ronaldo, peut-être, hein, je sais pas. Ça paraît un peu bizarre qu'il puisse pas s'entendre.
Moi, je pense pas qu'ils ne t'entendent pas. Je pense que la gestion du cas Ronaldo par Ten Hag est tout à fait normale. Et s'il l'avait pas fait, bah, je pense qu'on lui serait tombé dessus. Est-ce qu'il peut faire autrement? Peut-être. Mais ce qu'il lui fait, ce n'est pas lui manquer de respect ou autre. Alors, j'adore Ronaldo. Mais je suis avant tout supporter de Manchester. Comment le fait qu'ils ne veulent pas rentrer contre Tottenham, même s'il reste 10 minutes, c'est pas sympa. Et de toute façon, il s'est excusé à demi-mot sur son post Instagram. Il n'a pas dit qu'il s'excusait, mais on sentait que c'était. On peut le prendre comme une excuse.
C'était plus des regrets, des remords que des excuses, on va dire. Il fait amende honorable.
Oui, parce que sinon, il aurait pu très bien péter un câble ou autre. Mais moi, je trouve que sa gestion est bonne. Parce que le problème, c'est Ronaldo qui l'a causé. À l'arrivée de Ten Hag, Ten Hag a dit qu'il comptait sur Ronaldo. Monsieur ne s'est pas pointé à l'entraînement pendant 3 semaines. Il a loupé la préparation. À ce moment-là, Martial commençait à performer. Ben, c'est lui qui s'est mis dans cette galère-là. Donc, par la suite, c'est normal qu'il soit relégué dès que Martial revienne. Et quand il a été titulaire, il n'a pas forcément été bon non plus. Il a eu du temps de jeu, il a eu des occasions. Il n'a pas performé. Donc, qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent que Ronaldo soit titulaire à 100% des matchs et qu'on joue mal et qu'on ne gagne pas? Moi, je suis d'accord avec la gestion de Ten Hag.
Oh ouais, moi aussi, mais je trouve que c'est en coulisses, je me demande un petit peu ce qui se passe, quoi. Sinon, c'est très bien, au contraire, il fait un exemple. Enfin, c'est le premier coach qu'on a depuis longtemps qui a le pouvoir sur les joueurs, quoi. Ça fait du bien.
Ouais, enfin, c'est ça. Qui ne se laisse pas faire, surtout.
C'est curieux parce que je ne partage pas tout à fait cette analyse, en fait. Parce que depuis tout à l'heure, je vous entends dire que Ten Hag gère le cas Ronaldo comme il le faut. Pour moi, là, on est en train de parler, en fait, de soigner un problème, mais de pas trouver d'où ça vient. En fait, on soigne la cause, mais on soigne pas le problème originel. Je veux dire, c'est passé dans les médias, là, il y a pas longtemps, mais quand même, Ten Hag, il a quand même déclaré avoir parlé à Ronaldo avant ce qui s'est passé face à Tottenham. D'accord? Donc, il lui a parlé avant pour essayer de lui expliquer comment il comptait gérer son temps de jeu. Moi, perso, si l'entraîneur il parle au joueur et que derrière le joueur réagit comme ça, Pour moi, le problème, c'est pas qu'une partie, c'est les deux parties. C'est que les deux parties n'arrivent pas à communiquer. Quand tu n'arrives pas à communiquer avec quelqu'un, il y a deux personnes. La communication, c'est pas une personne. Donc déjà, pour moi, je pense qu'il y a un problème où finalement, on se rend compte que je pense que Ten Hag n'arrive pas à gérer Ronaldo. D'accord ? Il n'est pas en mesure de le faire. Après, est-ce que c'est bien ou pas, c'est autre chose. Parce qu'il est capable de le sanctionner. Vous êtes tous en train de dire qu'il est capable de correctement le sanctionner. Mais son taf, c'est de ne pas avoir à le sanctionner. Ton taf, c'est de faire vivre un groupe. Et du moment où cet incident arrive, et quelque part, par rapport à cette personne-là dans le groupe, tu as clairement échoué. D'accord ? Après, on ne sait pas tout ce qui se passe, mais vu qu'on a parlé tout à l'heure qu'il y a quand même une disparité de gestion entre certains joueurs, c'est pas étonnant. Maintenant, c'est pas étonnant. Un autre joueur va me dire Wan-Bissaka l'aurait pas fait, serait rentré. C'est vrai. Mais ce qui fait de Ronaldo, qui est peut-être quelqu'un qui est dans le top 3 all-time de ce sport, c'est parce qu'il a ce mental-là, les gars. Je veux dire, c'est un mec qui a 38 ans et qui aujourd'hui va pleurer comme un enfant s'il rentre pas sur le terrain. C'est pas un mec de 38 ans, et je veux le dire, et alors que j'adore le joueur, hein, no offense sur le joueur, pas l'homme. X, quand tu lui faisais jouer 15 minutes par match, il était content. Ronaldo, tu le fais jouer 15 minutes par match, il n'est pas content. Il n'est pas là pour jouer 15 minutes par match. Mentalement, le mec n'est pas là pour faire ça. Après, on peut parler de son niveau, c'est autre chose. Mais son niveau, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas le seul à être mauvais dans l'équipe. Sancho est mauvais et il enchaîne. Moi, le fait de son niveau, c'est pas une excuse. Ou alors, dans ce cas-là, tu l'appliques à tous tes joueurs et tous tes mecs qui sont mauvais, tu les sors. Et Sancho sort en ce moment. D'accord ? Donc, du moment que tu décides d'en garder certains et pas d'autres, moi, ça me pose un problème. Clairement. Surtout quand tu décides de le faire jouer à un poste où on n'a pas beaucoup de monde.
Surtout, excuse-moi, surtout que tu as des billes, enfin tu lui donnes des billes pour être mécontent. Moi je pense, et c'est une hypothèse qui me trotte en tête, et je me dis ça peut être que ça, non, mais en tout cas ça me paraît pas aussi évident que ça, mais je pense que c'est une bonne une hypothèse qui se tient, c'est que Ten Hag essaye de lui faire de le punir un peu de sa pré-saison ratée, son départ forcé, vrai ou pas. On ne sait pas, hein, on était comme l'a dit Cédric, on aurait bien aimé être en coulisses pour voir vraiment ce qui s'est passé justement en coulisses. Mais je pense que Ten Hag est en train de lui faire un petit peu payer ça, à sa façon, on va dire en douce, pas en affrontant fièrement et en jouant les coqs, t'as pas voulu venir, tu dégages. Non, il l'amène en douceur, dans le sens, bah écoute, t'as pas été là, Martial a performé, donc tu vas sur la touche. Le problème, c'est que je trouve. Il y a une gestion des fois qui est un peu qui se comprend pas forcément, dans le sens où le match contre Brentford, Ronaldo était toujours pas à court de forme. Enfin, il était à court de forme vraiment. On était au début de son retour, il avait pas fait pré-saison, il a joué 45 minutes contre la Rayo Vallecano. Martial se blesse. Là, on le met titulaire parce qu'on a personne sous le coude. Martial revient, Martial redevient titulaire tout de suite. Alors que, enfin, je sais pas, un joueur blessé. C'est très bien, on se plaignait du cas Ole Gunnar Solskjaer où il faisait revenir les joueurs blessés trop vite. Pareil avec Rashford. Rashford qui était blessé 2 semaines, je crois. Il se blesse et il revient tout de suite titulaire contre City. Moi, je comprends un peu comme on l'a dit, le mental de Ronaldo fait que c'est Ronaldo aujourd'hui, donc je le comprends un petit peu et c'est pour ça que je disais qu'il lui donne des billes pour augmenter sa frustration. Ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Non. On peut aussi ajouter à ça le fait qu'en avant-match contre Tottenham, il dit clairement aux médias, il est sur le banc, il va rentrer. Et si, ouais. Si on regarde même, je termine juste ça parce que je l'ai remarqué, mais pas trop de monde en a parlé, c'est que juste avant la mi-temps, il l'envoie s'échauffer parce qu'il voit qu'on galère à marquer. Et juste après la mi-temps aussi, on le voit encore sur le bord de la touche. Une fois que Fred marque, il le fait se rasseoir. Est-ce que c'est pour le préserver? En gros, bah, on a réussi à marquer. Je te préserve pour Chelsea, qui a aussi un gros match qui arrive dans 3 jours. Je sais pas. Je n'excuse en aucun cas le comportement de Ronaldo. Je dis juste qu'il y a des torts dans les deux sens. Ten Hag gère bien, on va dire, le cas parce que le groupe vit bien, on va dire. Mais surtout, ce qui est important, et je sais plus lequel d'entre vous l'a précisé, je crois que c'était Cédric qui disait qu'il fait de Ronaldo un exemple. On est d'accord, les gars, hein. C'est que dans l'effectif, s'il y en a un qui va chercher à faire le malin, il va se dire, putain, il a remis Ronaldo en place, moi je suis qui? Donc je pense que personne va faire les malins avec Ten Hag, là. Et c'est une bonne chose, en fait.
C'est complètement ça, mais parce qu'en plus, après, tu prends à boire et à manger dans ce que te dit le coach, mais le coach se dit, ouais, au début de saison, je titularise pas Ronaldo parce qu'il a pas fait la pré-saison. Ok, donc tout le monde dit, normal. On en parle de la pré-saison de Martial. Il a joué combien de temps?
Il a fait les trois matchs, comme les
trois matchs. Non, il s'est blessé, Martial, pendant la pré-saison. Mais il s'est blessé. Il n'a pas enchaîné les trois matchs du tout.
Pour moi, c'est pas pareil.
Attends. Si, c'est pareil. Parce que Martial, sorti de blessure, il revient direct comme titulaire. Ronaldo ne fait pas de pré-saison, mais enchaîne les deux premiers matchs. Donc, en fait, il a joué autant de temps quasiment en minutes que Martial. Mais on va me faire croire que la pré-saison, c'est en été, pendant les vacances, quand on part faire la belle en Australie. Là, c'est une blague, littéralement. Je veux dire, les mecs se manquent du jet lag. Ils s'entraînent sur une installation qui est en Australie. On ne veut même pas me dire que l'installation des sportifs en Australie est meilleure qu'à United. Faut pas déconner. On est en train de me dire que ça a plus de valeur que de s'entraîner la semaine et de jouer deux matchs de Première Ligue.
Malgré que c'est en pré-saison, ça reste un tour où les gars font beaucoup de foncier, où ils travaillent physiquement.
Quand tu dis qu'ils font du foncier, c'est l'argent, c'est des biens fonciers. Parce que c'est une tournée de la taille à pré-saison, elle est commerciale, les gars, arrêtez, c'est pas sportif. Bah,
oui.
Du tout. Ils ont passé plus de temps à faire de la publicité que de faire du sport, il faut arrêter.
Je suis d'accord, dans le sens où dès que Martial, je t'ai pris cet exemple exprès, c'est que dès que Martial est blessé, il revient, il rejoue. Rashford, pareil, contre City, à la fin du match, tu dis, j'ai pas voulu le faire rentrer en respect à Saka. Je vais juste terminer là-dessus, les gars, parce que moi, je vais devoir partir. Je pense que cet incident, je pense que Ronaldo l'a fait exprès de montrer son mécontentement aux yeux du monde, hein, malgré que l'équipe jouait très bien. Il voulait que ça pète. Et j'espère qu'entre deux, quand ils se sont dit les choses, moi je pense que ça peut être un mal pour un bien, cette histoire. Dans le sens où là, ils vont se parler entre quatre yeux. Comme tu l'as dit, peut-être qu'il n'y avait pas forcément une grosse communication et qu'ils ne le géraient pas très bien. Je pense que ça peut être un mal pour un bien. On verra bien. De toute façon, il ne reste qu'un mois avant la Coupe du Monde, donc il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de matchs. Premier élément de réponse, c'est qu'il a dit j'aurais aimé qu'il soit là contre Chelsea et que demain il est déjà dans le groupe pour revenir dans le groupe contre ce match-là, enfin, contre le match contre Seychelles, je crois, demain. Donc c'est peut-être un premier élément de réponse, on verra ça. Donc je finis sur ça, les gars, bonne soirée à tous. Merci
de
nous avoir écouté encore et
à bientôt.
À bientôt. Ouais. Du coup, moi je vais rebondir et je suis absolument pas d'accord. Pour moi, je vais refaire le film, c'est que je pense qu'au départ, dès la saison, je pense que Ten Hag veut mettre Ronaldo numéro 1 du poste d'avant-centre. Maintenant, il arrive ce qu'il arrive, et il ne s'est pas entraîné trois ans. Oui, on peut le voir de différentes façons. On peut le voir que le stage en Australie, ce soit uniquement marketing, mais non. Il va commencer à créer les automatismes, et travailler en groupe et travailler tout seul, c'est pas pareil, surtout à son âge. Je vais prendre un exemple parlant. On peut voir que l'année dernière, Messi n'a pas fait de pré-saison et on a tous cru que Messi était terminé. Là, il a fait une pré-saison correcte et là, on revoit pas le Messi de 25 ans, mais on revoit un joueur de football. Et là, surtout à cet âge-là, si tu ne fais pas la pré-saison correctement, ça se paye cash. Et là, ça se voit que Ronaldo n'est pas en forme. Même aujourd'hui, on se voit qu'il n'est pas en forme.
Cédric tranchera, mais Ronaldo a fait une pré-saison individuelle, d'accord? Le cas Messi, pour moi, je peux pas le prendre en exemple, le cas Messi, parce qu'on parle d'un joueur qui n'a jamais rien connu d'autre que Barcelone en Espagne. C'est trop, et qui arrive tardivement. Enfin, c'est sûr que c'était certain qu'il allait pas s'adapter au début, c'est certain. Donc, moi, je parlerai pas de ça. Mais je reste persuadé que rien n'est plus formateur et rien ne te donne de meilleurs automatismes que les entraînements à la semaine et les matchs de Première Ligue. Et d'ailleurs, je trouve que nos automatismes, là, vous vantez tous, et je vante nos automatismes des deux derniers matchs. Mais les gars, il y a aussi une corrélation avec le fait qu'on n'ait jamais joué autant de matchs de manière si rapprochée en nombre. Et en fait, on est monté en puissance suite à ces matchs-là. Je trouve qu'on a plus progressé sur les 5 derniers matchs que sur les 10 premiers. Et ça, c'est parce que tu joues de la Première Ligue et que tu es dans le dur. Je suis désolé, moi, je vous m'entendrai dire tout le temps. Hein, je veux dire, c'est pas la blague des vacances scolaires faites, enfin, les vacances scolaires, en colonie de vacances, en Australie, aux États-Unis, tu nous mets où tu veux, c'est une blague. C'est une blague. Les joueurs se mangent plus de déplacements que d'heures d'entraînement. Parce qu'ils se déplacent même arrivés là-bas. Oh les gars, l'Australie, c'est immense, hein. On n'a pas fait qu'un seul endroit. D'ailleurs, on n'est même pas allé qu'en Australie, puisqu'après, on est rentré en Europe. D'accord, on n'est pas rentré aux États-Unis, on est allé en Europe, si je dis pas de bêtises. Je veux dire, c'est une blague. Pour moi, c'est rien du tout, ça. Il n'y a rien qui est plus formateur que d'enchaîner les matchs, comme ils sont en train de le faire en championnat. Donc l'excuse de dire Ronaldo, il n'a pas fait les vacances avec les copains, il ne peut pas commencer la saison. Bah non, en fait. Pas quand le mec s'est entraîné de son côté.
Non, parce qu'il a refusé justement de venir. Pour la raison, on ne la connaît toujours pas. Il a refusé de venir. Maintenant, je pense que la raison, oui, moi, comme je l'ai dit, c'est la raison personnelle, moi, j'y crois. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, c'est la version qui est sortie. Moi, j'y crois. Tant qu'il n'y a pas de démenti, je reste sur celle-là. Mais je pense que Ten Hag a la vraie raison. Et le fait que Ronaldo vienne avec son agent le premier jour d'entraînement, c'est un as de la communication. C'est pas anodin.
Ah mais c'est pas anodin, il voulait partir, c'est certain. Ça, on le sait, je veux dire, c'est un fait. Mais une fois que tu l'as gardé, et pire que ça, une fois
que pour lui, donc c'est normal qu'il donne plus de temps de jeu à Marseille dès qu'il revient de blessure. Mais même s'il n'est pas fit à 100%, ben, il va plus lui faire confiance à lui parce qu'il rentre dans son projet de jeu. Pour moi, c'est tout à fait cohérent.
Bah alors non, bah alors du coup, moi, ça me pose un problème. Et après, j'ai une parole à Cédric qui va trancher, je pense. C'est que du coup, tu as un élément qui te pose un problème, tu décides de l'intégrer quand même. Au final, mais quand tu l'intègres, tu as une gestion qui est conflictuelle. Quelle est la plus-value ? Au final, soit tu le laisses partir, soit tu le mets de côté. Je veux dire, je vais dire quelque chose, mais Louis Van Gaal, il a mis Bastian Schweinsteiger en réserve. Il avait un problème avec lui. Il a été capable de mettre un joueur qui est champion du monde, qui est une masterclass dans son pays. Il l'a mis une année en réserve quasiment. D'accord ? Non, c'est Mourinho, c'est, je ne sais plus lequel des deux le fait. Bon, bref, un des deux le fait. On a tellement enchaîné les trucs. Il a passé une saison en réserve. T'as un problème avec Ronaldo, il vient en début de saison, il veut partir. Bah, en vrai, tu ne le fais pas jouer, mais tu ne le fais pas jouer vraiment. C'est-à-dire que tu n'alternes pas le banc, oui, peut-être tu rentres, non. À un moment donné, tu prends une ligne de conduite. Tu lui dis, là, c'est oui, là, c'est non. Mais ça me paraît difficile, dans la vie de ton groupe, de continuer à être en conflit avec ce joueur qui est cité comme un modèle pour les autres, de te dire je vais continuer toute la saison à être en conflit avec. C'est à un moment donné, soit tu arrêtes le conflit et tu te dis il a voulu partir mais je l'ai pour un an, parce qu'en plus il partira pas à l'intersaison les gars, parce que cette année il pourra pas jouer la Ligue des Champions du coup. Oui. Il a déjà été inscrit en Europe, donc normalement je crois qu'il peut plus jouer en Ligue des Champions.
C'est fini cette règle là.
Ah, elle a sauté. Il peut partir pour un club qui est en train de jouer la Ligue des Champions. Alors je m'excuse. Oui, alors peut-être qu'il part. Mais alors si peut-être qu'il part, tu fais peut-être tout pour le faire partir en janvier, et dans ce cas-là tu peux t'en passer les 6 premiers mois. D'accord. Mais là, se mettre entre les deux, un peu je me bats avec, un peu j'ai besoin de le faire jouer, bah en fait, la seule chose que ça t'emmène, c'est que ce soir, on fait la moitié d'un podcast où tu es obligé de parler de ça, en fait. Et pour moi, c'est pas une bonne gestion. Je n'amène pas ça sur une bonne gestion. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric ?
Enfin, si on met de côté le cas Ronaldo, je trouve qu'au niveau managérial, ça passe quand même plutôt bien dans l'ensemble. Hein. Tu dis qu'on joue mieux parce qu'on a de meilleurs joueurs, ça c'est vrai, mais il y a ceux qui étaient là les années précédentes comme Varane, Dalot, quand on les voit on a l'impression qu'ils donnent tout, ils transpirent, ils ont de la solidarité.
Alors Dalot, on lui avait jamais donné son...
C'est vrai qu'il y a ce cas individuel qui est un peu difficile et, je pense que c'est peut-être plus une affaire de personne, hein.
Après, c'est pas le seul. Hein. On a eu le cas avec Van Bissaka, on a eu le cas aussi avec Van de Beek, comme je disais. Ça fait plusieurs joueurs quand même dans l'effectif.
Disons que la différence, c'est que Martial et Rashford, qui sont quand même nettement moins doués, eux, ils font profil bas, ils acceptent. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont réintégrés dès leur retour, même s'ils ne sont pas en forme.
J'étais en train de dire tout à l'heure que Dalot aussi, là on parle de l'évolution de Dalot, mais Dalot n'avait jamais eu autant de jeux. Donc en fait, on l'avait jamais testé sur la longueur, donc il était temps de le faire, parce qu'il fait partie de l'effectif, si tu le gardes, c'est pour le faire jouer. Donc c'est assez difficile, mais voilà, j'ai quand même une impression, pour moi, je trouve pas que Ten Hag a une gestion équitable avec tout le monde, et ça, personnellement, c'est quelque chose qui me gêne. Qu'après que tout le monde n'ait pas le même temps de jeu, c'est bien évidemment, ça me pose pas de problème. Mais s'il y a certaines règles qui sont pas claires, qui donnent des passes droits à certains joueurs, pas à d'autres, et c'est quelque chose qui moi, personnellement, me gêne un peu dans la gestion.
Oui, mais regarde, tu vois, par exemple, je trouve qu'avec Ten Hag, c'est la fin des statuts. Ronaldo, c'était une grande star mondiale, que ça joue bien ou pas bien, il faut qu'il joue. Ou Maguire, c'était notre défenseur central le plus cher, même s'il est mauvais, il fallait toujours le faire jouer. Là, lui, il arrive à mettre des gens sur le banc,
Deux choses.
Avant, on avait des statuts qui nous protégeaient de tout, on n'avait même pu être bon. Quand même, là, je trouve que c'est un peu en train de changer. Même si c'est un peu discutable sur certains cas, comme Sancho, par exemple.
Maguire est toujours capitaine. On
oui,
peut
mais
en parler ou on n'en parle pas. Okay. Et Rashford, actuellement, je ne sais pas si vous avez vu les dernières déclarations, mais il trouve que le jeu de Rashford est exceptionnel en ce moment. Il ne sait pas faire un statut sur un joueur. Ah non, non, il a déclaré, les gars. Je vois Adama qui tire la tête, mais non, non, non. Il a fait des déclarations où il a dit que le jeu de Rashford, alors il n'a peut-être pas utilisé le mot exceptionnel, mais c'était un synonyme, donc tout va bien. Je ne me trompe pas dans ma déclaration. Je vous laisse aller reprendre les dernières déclarations du coach. Ce n'est pas celle de cette semaine, je crois que c'est la fin de la semaine dernière. Où pour lui, les prestations de Rashford sont exceptionnelles. Bah les gars, non, moi, non. Je ne qualifie pas ça d'exceptionnel comme prestation pour
non,
un numéro
2. Il faut le voir comme un élément de communication. Et en fait, c'est dans, il veut encourager la progression de Rashford. Moi aussi, j'étais le premier à vouloir qu'il parte. Je ne dis pas que là, c'est redevenu le Rashford de la première saison. Mais là, on revoit déjà un joueur de football. Tout n'est pas parfait, mais ça commence à devenir cohérent. Je sais que toi, pour toi, c'est un poulet sans tête qui a un court tout droit, qui est à zéro QI football. Ça se discute, mais je pense qu'il faut le voir comme un élément de communication pour Rashford et de valoriser la progression et pas les performances actuelles en tant que telles.
Ah non, je ne suis pas là pas pour un joueur de cet âge-là, je ne suis pas là pour valoriser les progressions. Rashford, il n'a aucune progression à faire, c'était soit il l'a fait faite, mais ce n'est pas maintenant qu'on va commencer à le développer, ce n'est pas à l'âge qu'il a. Mais
non,
bon, c'était,
non,
c'était
bon,
pas le sujet. Moi, j'ai juste parlé de Rashford pour dire... Ouais, mais j'ai juste parlé de Rashford pour dire qu'il mettait en place un statut, c'est tout.
Non, en fait, quand je dis progression, je me suis peut-être mal exprimé. Je veux dire qu'il est passé d'un état où c'était même plus un joueur de football. Et il faisait plus de politique que de football. Et que là, ça commence à redevenir un joueur de football. Je parle de cette progression-là. Je ne dis pas de la progression en termes de joueur de football, mais le fait de redevenir un joueur de football correct. Et pour Maguire, je sais que la dernière fois, vous m'avez dit que c'était plus facile de le sortir qu'autre chose. Pas tant que ça, parce qu'un capitaine, tu ne le sors pas comme ça. Et moi, je trouve que sa gestion, elle a été bonne parce qu'il l'a mis. Et bon, moi, pour moi, déjà, la première erreur, c'est de la nommer capitaine définitif. Il aurait pu le nommer capitaine temporaire, le temps qu'il évalue son effectif. Bon, il n'y a pas forcément de nom qui se dégage, mais ça, c'est un autre débat. Là, il l'a mis capitaine, il l'a mis titulaire. Je pense que lui-même savait qu'aussi, il allait le faire sortir. Il y a eu des mauvais résultats. Là, il l'a sorti. Et depuis... Il est blessé. Je pense qu'il l'a mis en vacances pendant un long moment. Va en vacances, détends-toi, fais quelque chose et reviens avec des nouvelles. Je pense que c'est plus ça dans cette optique-là. Et c'est une manière aussi de ne pas lui enlever le brassard. Mais moi, je pense que c'est un choix fort. Je dis pas que c'est un choix facile, certes, mais c'est un choix fort. Et donc, comme Cédric le dit, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est la fin des statuts. Si tu n'es pas bon, pas. Certes, pour certains joueurs, tout dépend en fait du poste. Par exemple, si Dalot n'est pas bon, Van Sera est actuellement blessé. Bon, là, il vient de revenir. Là-bas. Mais si Dalot n'est pas bon, tu vas mettre qui ? Il n'y a personne d'autre qui peut jouer à ce poste-là.
Malassia joue à droite, le coach l'a lui-même dit, et pourtant, il ne fait pas plus jouer.
Oui, mais.
Pour moi, c'est pas la fin des statuts. Je suis pas d'accord. Les statuts ont changé. Et je pense que Ronaldo, il n'arrive pas à le gérer. Parce qu'on parlait de Ronaldo à la base. Et je pense que Ten Hag n'arrive pas à le gérer. Quand il n'arrive pas à le gérer, il arrive à le sanctionner. Mais il n'arrive pas à le gérer en amont. Et c'est ce qui emmène justement les problèmes et les sanctions. Et quand tu me dis que c'est la fin des statuts, bah, pour moi, non, c'est pas la fin des statuts. Parce que Maguire est toujours capitaine. Je pense que c'est le premier statut de l'équipe. Tu viens quand même de dire qu'il avait pris le choix fort d'envoyer ton capitaine en vacances. Mais tu laisses ton capitaine en vacances. C'est quand même en plein milieu de la saison d'envoyer ton capitaine en vacances.
C'est quand même
quelque chose qui est chaud.
Il est blessé. Mais bon, je ne vois pas d'où il est blessé parce qu'il est revenu de sélection et après, boum, on ne l'a plus revu. Je pense qu'il est parti en vacances.
Pour moi, sans toujours un statut, parce que tout à l'heure, c'est vrai que j'ai beaucoup évoqué Wan-Bissaka, Van de Beek qui ne joue pas, mais on peut parler des Langas. Hein. Et Langa ne joue pas, Sancho a un statut, Rashford a un statut. C'est juste que les statuts ne sont plus les mêmes personnes, mais ils sont toujours là, les gars. Et je pense juste que Ronaldo, actuellement, il est plus gros que le club et plus gros que le coach. Et que le problème vient de là.
Tu penses sincèrement que Langa va faire mieux qu'actuellement Sancho ?
Bah, Sancho, oui. Ah, alors, je vais prendre la question à l'envers. Est-ce qu'il fera pire ? Alors, moi, je vais prendre la question à l'envers. Est-ce qu'il jouera moins bien que Sancho ?
Non, parce que là, le niveau de Sancho, il est quand même...
Voilà, et surtout, quand on a parlé avant de la patte Tenag, et vous me dites que Tenag sanctionne les mauvais joueurs, et du coup, bah, Sancho, il n'est pas sanctionné, pourtant, il sanctionne les mauvais joueurs, il ne les fait pas jouer, donc c'est bien qu'il y a un statut. Quand tu as son remplaçant sur le banc, tu as un statut.
Parce qu'il n'a pas d'équivalent à ce poste-là.
Elanga, c'est un... Elanga, c'est... c'est son poste d'origine, bien sûr qu'il a un équivalent.
Non, mais en fait, si Marcel était disponible, il aurait pu basculer Rashford à gauche et Sancho, il aurait été sur le banc. Et je pense que ça aurait, c'est ça qu'il aurait fait. Mais là, si tu sors Sancho pour mettre Elanga, bah, il y a un gap. Certes, Sancho n'est pas bon, mais il y a quand même un gap. Alors que si tu sors Sancho pour mettre Rashford, c'est équivalent. Si tu sors Malacia pour mettre Shaw, c'est équivalent. Tu ne perds pas au change. Si tu sors Dalot pour mettre Malacia à droite, tu perds au change parce que c'est pas le même pied, c'est des adaptations. Donc, c'est pour ça que Dalot va jouer plus de matchs, etc. Donc, moi, pour moi, c'est la fin des statuts, mais sauf qu'il y a certains joueurs qui, malheureusement, oui, sur Sancho, là dans l'état actuel, il ne peut pas vraiment sortir parce qu'il n'y a personne pour le pousser dehors.
D'accord. Bah écoutez, je vous propose d'arriver sur la fin. Cédric, je vais te donner la parole en premier. J'aimerais que tu me dises simplement pour terminer, si pour toi, Ronaldo, si c'était toi là le coach, qu'est-ce que t'en fais ? Pour conclure, qu'est-ce que tu en fais ?
Je dirais que le plus important, c'est l'équipe.
Aïe, 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 la question piège.
Ouais. le plus important, c'est l'équipe. Et je me rappelle que du temps de Ferguson, il n'a pas toujours été gentil, il n'a pas fait que des choses justes. C'est vrai que Ten Hag, il n'est pas là pour être juste, il est là pour être efficace, que l'équipe gagne. Et pour l'instant, il est plutôt en train de réussir ça, je trouve. Je suis triste pour Ronaldo, mais bon, pour l'instant, Ten Hag tient bon, je trouve.
Tu l'alignes en Europe demain ? T'es l'entraîneur, tu le fais jouer demain ou pas ?
Il faut en discuter avec lui avant. Est-ce que monsieur ne trouvera pas ça trop humiliant ? Bon, je sais que moi, par exemple, le jeudi, je vais jouer au tennis. Alors, je ne suis pas disponible pour l'Europa League. Et peut-être que Ronaldo, il a quelque chose aussi. Hein, on ne sait pas.
Oh, bon, bah écoute, je pense qu'on aura la solution demain. On va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. N'oublie pas Mohamed qui est parti un petit peu avant, mais qu'on remercie également. Merci Adama. Merci Cédric. Merci à tous nos auditeurs. Merci ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout. Je vous rappelle que le podcast est ouvert à tout le monde. S'il y a des gens qui ont envie de venir participer avec nous, il suffit de se manifester sur le forum. J'en ai parlé un petit peu au début. N'oubliez pas manchesterdavid.com. Ça fait plaisir de voir arriver des nouveaux. Le Twitter, ne nous oubliez pas. Le podcast, merci à ceux qui écoutent et bienvenue à ceux qui viendront. Et je vous propose de dire au revoir.
Salut les gars.
Salut.